France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco, qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Mais avant cela, nous partons à la rencontre d'un couple de paysans passionnés, convaincus qu'une alimentation saine commence par une production responsable et locale. Nous les avions rencontrés lors d'un précédent séjour en Haute-Savoie pour Les Bonnes Choses, alors qu'ils avaient posé leur food truck du champ à l'assiette dans un festival gastronomique de montagne, et j'ai voulu en savoir plus sur leur façon de vivre et d'envisager l'agriculture. Entre-temps, on les a vus manifester leur colère contre la politique agricole. Ils ont dû vacciner leurs vaches contre la dermatose nodulaire contagieuse qui tournait dans la région, et ils ont reposé leurs casseroles dans leur ferme dite « noire des cimes », nichée dans un cadre naturel exceptionnel. Eux, c'est Charles et Manon, la petite trentaine tous les deux, parents de deux adorables petites filles et propriétaires d'une quinzaine de vaches d'airain, d'une trentaine de poules rousses, d'un beau jardin maraîcher et d'un petit verger. Ici, on fait son pain au levain naturel. Sauce, légumes, fruits, viande, pickles, œufs, tout est fait à la ferme, 100% en bio. Et quand on veut du fromage, on va au village d'en face, au Jet, chez les parents, à la ferme de Caroline, qui vend aussi la production laitière de Valentin, le frère.
Bonjour, je m'appelle Charles, je suis paysan cuisinier à la ferme Noire des Cimes, et ici on est à la rivière Anvers. C'est un petit village sans station de ski, ce qui est rare en Haute-Savoie, dans la vallée du Giffre, en Haute-Savoie.
La première gare, c'est Cluses, qui est à côté, pas très très loin de Bellegarde, Annemasse. En tous les cas, le train passe par toutes ces gares pour arriver. C'est une toute petite gare.
Oui, Cluses, c'est une petite ville, une ville ouvrière. Et nous, on est à 20 minutes. On est très proche des stations de ski et on est à une heure d'Annecy aussi.
La ferme Noire des Cimes, Charles, c'est une affaire de famille? Vous diriez ça comme ça?
C'est peut-être d'une certaine manière une histoire de famille dans l'inspiration. Mais après, c'est une création d'activité qu'on a faite avec Manon, ma femme. On y bosse tous les deux, c'est une ferme qu'on a créée en 2014 quand même, et on a pu accéder à cette vieille ferme ici à la rivière Anvers en 2020, et c'est là que notre projet a pris la tournure qu'on souhaitait lui donner. Quand j'étais tout petit, j'avais des grands-parents qui avaient une ferme de polyculture élevage au Jet à 1500 mètres d'altitude en face nord. Là, ils avaient toutes les difficultés et pour autant, on avait pratiquement ce qu'on pourrait appeler l'abondance. C'est-à-dire que je voyais mes grands-parents traire les vaches, traire les chèvres, je voyais ma mamie élever de la volaille, tuer ses volailles, faire son jardin, cuisiner. Elle était paysanne et chef de cuisine aussi. Et elle nous gâtait tellement, enfin, autour de la table, c'était le paradis. Et je pense que cette enfance et ensuite le fait que mes parents soient aussi installés en agriculture, en tant que paysans, alors eux plus éleveurs de vaches, d'airain aussi et de chèvres, c'est quelque chose qui m'a fait baigner dans ce monde agricole. Et je trouve que ça a tellement de sens que c'est ça que je voulais proposer à mes enfants, quoi. Et avec Manon, on a tout de suite envisagé le fait de trouver une petite ferme proche des montagnes avec 3 hectares où on pourrait à terme faire ferme auberge. Et c'est ce chemin sinueux qu'on emprunte. On n'est pas encore arrivé au bout, mais tout doucement on y va et on est assez fiers du cadre dans lequel on élève nos filles en ce moment.
Vous allez nous emmener faire un tour, même s'il fait un peu froid. Et d'ailleurs, Manon nous rejoindra dans ce tour extérieur de la maison. Mais vous avez dit, Charles, que vous étiez paysan cuisinier ou paysan restaurateur. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce métier ?
Oui, on est très attaché au terme paysan, parce que donc on se définit pas comme des agriculteurs ou même comme des exploitants. On n'exploite personne, ni la terre, ni les animaux, ni les hommes. Ce qu'on cherche à faire, c'est entretenir l'espace naturel autour de nous, qui est disponible, et le valoriser de la meilleure des manières. et cuisinier, parce qu'en fait, on a une petite ferme de polyculture élevage qui a une multitude de productions, mais aussi une multitude d'ateliers. Et ces productions-là, si elles étaient vendues en direct, ne seraient pas suffisantes pour qu'on arrive à en vivre. Et donc, on a cherché par tous les moyens avec Manon à savoir comment on allait pouvoir arriver à s'en sortir. Et donc, ça passait absolument par la cuisine, puisque déjà, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous amène tout un tas de souvenirs, à moi personnellement. Et parce qu'il y a une façon de valoriser toutes ces productions qui nous permet d'en vivre.
Donc, il y a une façon en particulier que vous avez de cuisiner. Non seulement vous cuisinez tous les jours avec Manon, mais vous cuisinez aussi pour un certain nombre de clients, de convives qui viennent vous voir à différentes occasions, sur des événements, parce que vous vous promenez, alors dans la région, peut-être au-delà même, mais surtout dans la région, lors d'événements, vous cuisinez dans votre food truck.
C'est ça, en attendant de pouvoir ouvrir notre ferme auberge, qui demande encore quelques travaux. On a décidé d'acheter une remorque aménagée, qu'on a réaménagée d'ailleurs en cuisine professionnelle. Et aujourd'hui, c'est un super outil pour valoriser les produits de notre ferme, les légumes, la viande, les œufs, mais aussi ceux des copains et des paysans qui sont à côté de nous en bio, par exemple pour la farine, les légumineuses. Et on valorise toutes ces productions-là dans des événements qui vont de 30 à 250 repas par service. Et puis, on a aussi, outre l'événementiel, on a aussi une place fixe l'été au Mont-Cali, donc le lieu où nos vaches montent en alpage, au jet, l'été, face au Mont-Blanc. Et on essaie de faire plusieurs types de cuisine, c'est-à-dire que sur les événements, on est plutôt organisé en mode burger fermier de qualité bio. Et le reste du temps, on essaie aussi de s'adapter à ce que recherchent nos clients. Donc on est capable de faire une cuisine traditionnelle savoyarde comme l'a appris ma mamie, une cuisine plus classique, ou essayer aussi de faire des nouvelles choses en fonction de ce que veulent nos clients.
Mais ça veut dire, Charles, que vous ne vendez pas la production de votre jardin ou de la viande, vous vendez des plats cuisinés que vous cuisinez vous-même.
C'est ça, au final, l'intégralité de la production de notre petite ferme, que ce soit les légumes, les œufs, est cuisiné directement dans le food truck, servi aux clients. Et ce que je voudrais dire, et ce qui est important pour nous, c'est qu'on reste dans le cadre de l'agriculture biologique. Et comme on veut rester des paysans cuisiniers, mais pas aller vers de la restauration, parce qu'on n'est pas restaurateur, on se contraint à chaque plat qui sort, avoir au moins 80% de notre production dans l'assiette.
C'est pour ça que vous vous dites aussi que c'est du champ à l'assiette.
C'est ça, c'est le slogan qu'on a décidé d'exposer. C'est aussi une marque qu'on a déposée, du champ à l'assiette.
Bon, alors nous, on n'est pas encore devant notre assiette. On y viendra, j'espère, peut-être plus tard. Vous nous ferez déguster ce que vous avez cuisiné, Charles. Mais on va sortir dans le champ pour aller voir, faire le tour du propriétaire. Et puis on se retrouve dans la maison après, si vous voulez bien. On y va ?
Je vous propose de me suivre, Caroline.
Manon, on est où et qu'est-ce qui nous entoure ?
On est dans un petit coin de paradis, au bout d'une route, où on est un petit hameau de 3 maisons. Et nous, la ferme est la dernière maison du hameau, et avec que des champs qui nous entourent au final, et avec une belle vue sur toutes les montagnes et la vallée du Giffre.
On est à quelle hauteur ?
On est à 900 mètres d'altitude.
Là, on est dans des paysages recouverts de neige.
Oui.
Habituellement, quand il n'y a pas de neige, il y a quoi ?
Eh ben, on est entouré par les prés où paissent nos vaches pendant l'été, enfin en printemps et automne, et après l'été, elles montent en alpage au jet.
Vous nous faites, Charles, une petite présentation de ce que vous avez.
On a une quinzaine, entre 15 et 20 vaches d'airain, donc une petite race rustique, endémique de nos montagnes, au Savoyard, Valaisanne et de la vallée d'Aoste. On a aussi 2500 m² de légumes diversifiés qu'on conduit en maraîchage bio, enfin toute la ferme est labellisée en bio. On a aussi une petite cinquantaine de poules, pondeuses pour l'instant, mais qu'on aimerait diversifier aussi vers du poulet de chair de qualité. Et puis on fait 7000 m² de pommes de terre en altitude l'été. On a un petit alpage aussi au Mont Cali avec une très belle vue sur le Mont Blanc. Et notre système de ferme s'appelle de la polyculture élevage, puisqu'on multiplie les ateliers et ces ateliers ils sont bénéfiques les uns pour les autres. On est comme dans un cercle vertueux continuellement où les vaches font le compost pour produire les légumes, ben, tout ce qui est un peu moche retourne aux animaux et tout ce qui est joli ben, sert à nourrir le village. On fait à peu près 8 à 10 000 repas par an alors qu'on n'est que tous les deux sur la ferme. C'est comme si on nourrissait chaque jour une trentaine de personnes. Nous, notre but, c'est pas de nourrir le monde, c'est de nourrir notre village, notre communauté, c'est de nourrir les personnes qui nous entourent.
Devant moi, il y a des serres. Il y a quoi dans les serres ?
Alors, c'est des petites serres tunnels qu'on a ici sur le bas de notre jardin. Dans ces serres, en fait, on fait plusieurs rotations de culture pendant l'été, à partir du printemps, fin d'hiver, début de printemps. On commence à cultiver surtout les légumes qui ont besoin d'être sous serre, donc tomates, parce qu'on est quand même face nord, donc il nous faut, si on veut arriver à faire pousser des tomates, on a besoin de la serre quand même. L'année dernière, on a mis des aubergines, puis les salades. On a aussi beaucoup de plein champs de part et d'autre des serres qui nous permettent de faire tous nos différents légumes, carottes, choux, radis, poireaux.
Tout quoi.
Tout quoi.
On avance ?
On avance.
On va où d'ailleurs ?
On va aller voir le maraîchage d'un peu plus près et puis après on ira voir les vaches.
On monte sur un chemin en dessous de la terre, mais actuellement de la neige. Manifestement, le tracteur passe sur le chemin que nous empruntons à pied, non ?
Le tracteur passe quand il glisse pas.
Le tracteur peut glisser.
Quand le tracteur glisse, on maîtrise plus grand-chose.
Ça vous est déjà arrivé ?
On fait de la luge.
Vous êtes nombreux, Charles et Manon, à faire ce que vous faites dans la région, c'est-à-dire de la polyculture bio ?
On va dire que la polyculture élevage en bio, c'était le système plus que prédominant il y a 70 ou 80 ans en arrière chez nous, ici en montagne. C'était tout simplement la seule manière qu'on avait trouvée pour survivre et pour passer les saisons les unes après les autres. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue plus une agriculture d'élevage en Haute-Savoie, autour des AOC fromagères. Et on n'est plus très très nombreux à pratiquer la polyculture. Même si ces 10 dernières années, il y a quelques maraîchers qui se sont réinstallés, et de temps en temps, ils prennent des poules ou des choses comme ça. Mais la polyculture élevage, ça représente pas mal de temps de travail pour passer partout. Je vois qu'elles sont déjà rentrées, les poules.
Ouais, j'ai vu qu'elles étaient dehors.
Ça fait 5 ans que vous avez acheté cette ferme, donc vous commencez votre travail. La première année, je crois que là, c'était une très mauvaise année, la météo s'y prêtait pas, rien n'allait. La deuxième année, c'était bien mieux déjà, puis vous avez corrigé un certain nombre de choses et vous avez pu faire des bonnes récoltes et du coup faire de bons repas, beaucoup.
Je pense que le métier de la polyculture élevage demande d'avoir des connaissances et de la technique. Et on s'est vite rendu compte la première année que les terres qu'on avait récupérées étaient très pauvres, qu'elles avaient été, on pourrait dire, peut-être exploitées les années qui nous avaient précédées. Et quand on a fait notre première année de culture, on s'est dit « Waouh, ok, là, il va falloir vraiment qu'on rebâtisse nos sols. » Et on a cette chance, en fait, d'avoir ce système polyculture-élevage où les vaches vont nous amener le compost pour faire le maraîchage. Et grâce à ce compost, on a pu rebâtir nos terres et avoir une production de légumes qui aujourd'hui est beaucoup plus satisfaisante qu'il y a 5 ans en arrière. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir capitaliser pendant longtemps, parce qu'un bon sol, ben, si on en prend soin, donc là par exemple l'hiver on le couvre avec des bâches, ou alors s'il n'est pas couvert avec des bâches, il est couvert par un engrais vert, comme ça on évite l'érosion des sols, et ben, on a rebâti et on évite qu'il y ait de l'érosion des sols, ben, ce sol-là il va pouvoir produire des légumes pendant longtemps.
Comment on voit que la terre est pauvre ?
Alors déjà, on a cette appréhension, ce qu'on connaît un peu nos sols, et on voit, on se dit, ah là, peut-être qu'il va y avoir un souci. Et puis après, très vite, quand on met en culture, il y a certaines espèces qui fonctionnent. Par exemple, la carotte, elle aime les sols pauvres. Et donc on se dit, ah là, la carotte a très bien fonctionné. Par contre, tous les légumes qui demandaient plus de matière, plus d'azote, eux, ils sont devenus jaunes au fur et à mesure de la saison. Donc ils ont fait une fin d'azote. En gros, ils sont morts de faim, quoi.
Donc là, on est en hiver, c'est recouvert donc d'herbes, de plantes. C'est ça, votre engrais vert, c'est ça dont vous parlez, Charles ?
C'est ça. C'est un mélange d'une multitude d'espèces, seigle, vesse, radis. Enfin, il y a peut-être une quinzaine d'espèces dans ce mélange-là qu'on a mis derrière des oignons qu'on avait cultivés l'année dernière. Donc à partir du mois de juillet, on a récolté nos oignons et tout de suite, on a semé cet engrais vert. On l'a arrosé pour qu'il parte en plein été. Et après, ben, il va faire sa vie. Il monte pratiquement, je pense qu'au plus haut, au mois de novembre, il faisait pratiquement notre taille. Puis là, avec les gels successifs, il commence à se ratiboiser au sol. Et ce printemps, on n'aura même pas besoin de travailler la terre. On va pouvoir planter directement.
Et là, vous replanterez des oignons ?
Non, on fait une rotation de culture. Ici, je pense qu'on va planter des courgettes ou... Voilà.
Est-ce que vous pensez que le modèle que vous avez décrit tout à l'heure, ce fameux modèle de polyculture élevage qui donne un travail extrêmement diversifié, à la fois technique, plein de savoir-faire et de compétences diverses, devrait être le modèle agricole français ?
Bah, je pense que c'est celui qui a nourri des générations et des générations avant nous. Et qu'effectivement, si on voulait retrouver un mode de vie plus respectueux de la nature, où les connexions se font plus à l'échelle locale, ben ça devrait redevenir ce système-là, parce que c'est un système vraiment très vertueux. On n'y trouve presque que des intérêts et qui peut faire vivre et travailler beaucoup de monde, tout en proposant une nourriture de qualité. Et d'après moi, c'est vraiment la solution à tout un tas de problématiques qu'on est en train de se dire. Mais comment on doit devenir, où va le monde agricole, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire des fermes-usines, est-ce qu'il faut faire des petites fermes? Non, il faut faire des fermes qui ont du sens, et la polyculture élevage, c'est vraiment un modèle qui a du sens. Et puis, ben, sur ce genre de petites fermes, on peut arriver à faire vivre beaucoup de monde, et puis je pense dans la bonne humeur, on y élève nos enfants, ils apprennent aussi beaucoup de choses, puis ils apprennent le respect du vivant, et ça c'est chouette.
Manon, on se dirige vers quoi, là ?
Alors, donc on a nos trois petites certes chenilles qu'on a sur le bas du jardin, avec le maraîchage en plein champ. Et là, un tout petit peu plus haut, on a une grande serre maraîchère, qui est notre serre qui nous sert à faire tous nos plants au printemps. Et cette serre, on a fait le choix de lui accoler un tunnel d'élevage où nos vaches logent pendant l'hiver. Et ce qui nous permet, en fait, à la toute fin d'hiver, et même pendant l'hiver, de récupérer la chaleur des bêtes dans cette serre pour commencer nos plants et les plantations très tôt, en fin d'hiver et début de printemps. Les vaches, au final, sont un élément essentiel de la ferme parce que elles nous permettent d'avoir du lait, mais nous on a décidé pour l'instant d'arrêter de faire du fromage avec nos vaches parce que en étant que deux sur la ferme, on peut pas être deux partout. Du coup, les vaches nous permettent d'avoir la viande pour faire tous nos repas, et la partie la plus importante pour nous, c'est la production du fumier qui nous permet d'amender nos sols, de nourrir nos sols et de prendre soin de tout ça, et pour pouvoir avoir de bons légumes aussi derrière.
Alors on est arrivé avec tout ça, tant bien que mal, en haut. Ouh, là, l'odeur change, c'est-à-dire que là, on a très clairement des bottes de foin, de paille, et on a très clairement une odeur de bétail, j'ai envie de dire, d'animal. Quand on arrive là, on ouvre la serre, on n'est pas dans l'engrais vert.
Là, on n'est plus dans l'engrais vert.
Elles mangent quoi, vos vaches ?
Alors nous, nos vaches, elles mangent uniquement de l'herbe. Donc l'été, l'herbe des prés. Et l'hiver, du foin bio qui est fait par des copains dans une ferme bio un peu plus bas, en Haute-Savoie.
Je ne sais pas si c'est la bonnette de mon micro ou vos voix ou nous, Mais c'est qui s'approche de nous, là?
Et là, on a Angolon qui vient vers nous. C'est une vache qui a 6 ans. Et elle devrait, dans l'hiver, nous faire un petit veau. Et juste derrière, on a aussi les petits veaux qui sont nés, là, cet hiver. On en a deux, là, et puis il y en a une qui est dehors aussi. L'idée, c'est que les veaux restent avec leur mère pour être élevés sous leur mère tout au long de leur vie, quoi.
Allez, on retourne se réchauffer alors pour l'atelier cuisine. C'est quoi ça?
Nos besquins, la brioche traditionnelle de Haute-Savoie. En fait, c'était une brioche qui était faite généralement au mois d'août ou au mois de septembre, lors de la fête du village, par le boulanger. Et la tradition voulait que le parrain offre à son filleul la brioche chaque année jusqu'à ses 18 ans, et qu'au moment où le filleul atteigne la majorité, ce soit à lui d'emmener une brioche à son parrain chaque année. Mais malheureusement, la vraie recette traditionnelle du besquin, elle s'est perdue, et c'était une brioche qui était faite avec une pâte à pain au levain, qui était améliorée avec des œufs, éventuellement du lait et du beurre, avec un peu de sucre aussi, dans laquelle, pour la faire sortir un peu de l'ordinaire, on mettait soit du cumin, soit du carvi, qui était ramassé en alpage, et du safran. Ce qui la rendait un peu exceptionnelle, avec une couleur un peu jaune-orangé. Mais malheureusement, on n'arrive pas à retrouver de traces de recettes traditionnelles de besquin au levain. Et donc, nous, avec Manon, on a passé pratiquement tout un hiver à faire et à manger du besquin régulièrement pour arriver à trouver une recette qui nous convienne, qui fonctionne, qui soit aussi au goût des souvenirs de mes parents qui, eux, ont dégusté cette tradition d'année en année. Et maintenant, je pense qu'on arrive à trouver à peu près la recette qui convient à tout le monde. 100% levain. Alors là, maintenant, on a préparé la pâte à rissole, qui est une base de pâte brisée qu'on feuillete. Là, il ne nous reste plus qu'à l'étaler. Les tours sont déjà faits. Donc, on y va au rouleau. Un peu de farine.
Pendant que vous étalez la pâte à rissole, vous nous rappelez ce que c'est les rissoles?
Alors, les rissoles, c'est la petite gourmandise traditionnelle savoyarde que toutes les mamies faisaient à Noël, enfin pendant les fêtes de fin d'année. Et encore une partie du mois de janvier, début d'hiver. Elle se fait donc avec une pâte, on va dire, brisée, qui est feuilletée, et ensuite dans laquelle on va fourrer des petites cuillères comme ça de compote. Alors à la base, c'est de la compote de poire à rissole. En fait, c'est une compote qui est cuite sur le fourneau au feu de bois. Donc nous, on a cette chance de se chauffer au feu de bois et donc de pouvoir refaire cette compote exactement comme à l'original. Donc elle est faite sur le four à bois. Et ensuite, elle est séchée dans le four du four à bois. On y ajoute un fruit sec, donc figue, abricot ou alors raisin sec, pour la dessécher encore un peu. Une fois qu'elle est bien sèche, comme ça, on fait des petits tas sur notre pâte qu'on vient d'étaler. On va refermer cette pâte comme une raviole. On pense que la vraie façon de faire, d'il y a longtemps, c'était quand même plutôt une raviole qui était frite, puisque les fours n'étaient pas très fiables. Même les fours de cuisinière à bois sont des fours qui montent vite très haut en température et qui redescendent très vite aussi avec peu d'inertie. Donc ce serait surprenant qu'à l'époque, vraiment aux origines, ces rissoles elles soient cuites au four, mais maintenant c'est quelque chose qui se fait quand même assez régulièrement. Mais elles étaient plutôt frites dans un sautoir, quoi. Pareil, sur le feu de bois, dans un peu de matière grasse.
Bon, alors ça y est, tout est prêt, tout est sorti du four, tout est beau. Les pains ont bien gonflé, vous avez mis quelques petites graines de pavot dessus. Tout est croustillant, tout a l'air délicieux. Vous allez emporter tout ça chez vos parents, c'est ça, ce soir?
Oui, l'idée c'est qu'avec mes parents, on est deux petites fermes en agriculture biologique de montagne, mais on est complémentaires, puisque finalement, continuent à faire du fromage avec leurs vaches et leurs chèvres. Alors que nous, nos vaches pour l'essentiel maintenant, produisent du compost, produisent de l'entretien d'alpage, mais aussi dans leur finalité de la viande. On n'a plus cette chance de faire du fromage, donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir aussi la ferme de mes parents, puis peut-être découvrir une des meilleures raclettes de France.
Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Charles.
Merci à vous.
h 25, c'est l'heure du dialogue des cuisines par Maurice Sacco qui nous fait partager son séjour dans une ferme des Landes.
Ces derniers temps, j'ai eu la chance de visiter plusieurs fermes et je tiens à partager toute mon admiration pour ces métiers agricoles. En tant que chef cuisinier, je suis reconnaissant de ces artisans du bon goût. Mon métier ne serait possible sans eux et nous avons la même passion pour le bon produit. Ces métiers demandent un investissement personnel total au service de ces cultures ou élevages, chose à laquelle je suis personnellement très sensible. J'ai le souvenir d'une ferme dans les Landes, la ferme d'Arrigade, tenue depuis 5 générations, qui concentre sa culture sur 3 produits phares. Le canard, forcément, car nous sommes dans les Landes, les asperges blanches et un véritable produit d'exception, les cacahuètes de Souston. Pourquoi ce produit est exceptionnel? Car il est le résultat d'un mini-miracle annuel. L'arachide est un produit qui nécessite un climat particulier. Il demande des sols sablonneux, fortement drainants, avec beaucoup de pluie. Le tout alterné par des périodes sèches. Des conditions très complexes à réunir en France, et c'est uniquement dans les Landes que ces conditions sont réunies. Ce qui en fait l'une des seules cultures d'arachide française. Gustativement, cela donne des cacahuètes plus sucrées que la moyenne. Pour moi, l'arachide, c'est ma madeleine de Proust. Elle me rappelle le mafé de ma maman, et elle ne plaisante pas sur ce sujet. Je vais donc vous donner une recette de mafé rapide et végétale. Bien entendu, la ferme d'Arrigade produit une excellente pâte d'arachide que vous pourrez utiliser dans la préparation. Pour la recette, il est important d'utiliser de la pâte d'arachide et non du beurre de cacahuète. Il contient du sucre et ne vous donnera pas le résultat attendu. Commencez par tailler grossièrement un oignon, 3 gousses d'ail, une carotte, un piment et 2 tiges de céleri. Faire revenir, puis ajouter l'équivalent de 3 grosses cuillères de concentré de tomate. Ajoutez de l'huile et faire roussir votre concentré de tomate. Mettre ensuite du sambara. C'est un élément essentiel du mafé que vous pouvez trouver en épicerie exotique ou sur internet. Et ajoutez du poivre noir moulu et du sel. Complétez avec 500 g de pâte d'arachide et mélangez hors du feu. Mouillez à un peu plus de la hauteur et remettre à cuire à feu moyen en mélangeant régulièrement. Attention, la sauce accroche facilement, donc bien la remuer. Pendant la cuisson, ajoutez un piment entier et laissez-le dans la sauce pendant la cuisson. Au bout de 30 minutes, la sauce va commencer à trancher et à ressortir de l'huile. C'est le signe que votre mafé est cuit. Servez cette sauce avec du riz, du poulet ou du bœuf. Bon appétit et bon dimanche!
Un dernier mot pour soutenir l'appel aux élus de tous bords de l'association L'École Comestible qui dispense des programmes pédagogiques de la terre à l'assiette dans 8 régions et près de 200 écoles publiques maintenant. Un appel pour soutenir une éducation à une alimentation saine, durable, accessible et savoureuse parce qu'apprendre à bien manger c'est aussi fondamental qu'apprendre à lire ou à compter. Nous mettons le lien vers la tribune de l'association sur notre page. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.